Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.
Jean-Claude Mengoni, bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour développer encore un petit peu cette thématique biotope écotourisme. Vous êtes le gérant du gîte La Lune en Bouche à Saint-Andéol.
Oui, bonjour. En fait, je ne suis pas gérant, je suis aide de ma compagne qui est gérante, pour être exact. Mais c'est bien La Lune en Bouche, c'est bien Saint-Andéol.
Avant d'aller un petit peu plus loin dans la thématique écotourisme, puisque là c'est un petit peu votre cas, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce gîte, et sa particularité d'ailleurs, et pourquoi d'ailleurs vous êtes finalement, on peut vous ranger dans l'écotourisme ?
Oui, alors La Lune en Bouche, c'est 5 chambres d'hôtes, donc c'est pas exactement un gîte, c'est des chambres d'hôtes, donc on assure le logement, le nettoyage, la fourniture d'un certain nombre de choses, dont les draps et le petit déjeuner. Vient en sus, pour ceux qui veulent, ce qu'on appelle la table d'hôte, enfin le repas d'hôte en ce qui nous concerne, qui est le repas du soir. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert en 2002, en fait, et puis on s'est autoproclamé, si on veut, gîte éco-biologique, tout simplement parce qu'on essaye de tendre vers une philosophie écologique, biologique, même si on n'y arrive pas à 100%, c'est un peu un objectif à atteindre, grosso modo.
Ça passe par, évidemment, on imagine bien, la nourriture, un retraitement particulier de vos eaux usées, peut-être une gestion de l'énergie un petit peu différente, et puis un bâtiment.
Oui, ça passe par plein de choses. C'est un peu, je vais utiliser un grand mot, une philosophie qu'on essaye de développer, c'est un peu un objectif à atteindre, que j'ai résumé sous 4 lettres, 4 S. Donc c'est la philosophie des 3 ou des 4 S qui sont... sobriété, qui sont santé, solidarité et même, pourquoi pas, simplicité. Donc on essaye vraiment d'être performant, d'être bien à tout niveau. Pour donner un exemple, la sobriété, c'est évidemment au niveau d'abord énergétique. Hein. Comment se chauffe-t-on ? Comment chauffe-t-on l'eau chaude solaire ? Évidemment, on traite aussi du problème de l'eau, mais on traite aussi du problème des transports. Est-ce qu'il est vraiment, entre guillemets, écologique, de demander à des gens de venir pendant 2 jours en faisant 800 km en voiture. Donc là, on essaye, par exemple, on pourra développer tout ça par après si vous voulez, de faire en sorte que les gens viennent par le train en mettant à leur disposition un certain nombre d'éléments et en offrant des nuitées gratuites, notamment s'ils viennent en train.
Eh ben, on va détailler justement un petit peu tout ça, parce que c'est bien ce qui est intéressant. Vous avez évoqué le transport. Par ailleurs, il me semble que vous êtes aussi plus ou moins affilié à ce réseau qui s'appelle Manatera de covoiturage. Je dis peut-être une erreur.
Non, on est utilisateur de Manatera, on essaie de le promouvoir. En fait, moi, je gère, entre guillemets, une liste de petites annonces que j'envoie par email toutes les semaines ou tous les 10 jours à peu près quand j'ai le temps, dans lequel il y a des petites annonces qui sont diffusées. Et Manatera, on essaie vraiment de pousser pour que les gens prennent de plus en plus l'habitude de covoiturer plutôt que prendre leur voiture pour aller à Cré, à Valence ou bien simplement de Die à Saint-Andéol-en-Cœur.
Alors pour développer un petit peu cette partie transport, vous avez dit que vous mettiez en avant un certain nombre de points qui peuvent permettre aux gens de venir plus tôt en train. Alors la gratuité en est une, donc l'appât par le financier. Quels sont les autres, comment vous faites pour que les clients privilégient le train par exemple ?
Tout d'abord, on diffuse l'information, on communique pas mal sur ce sujet, donc... Là, on offre, si les gens viennent 6 nuitées, on en offre une complémentaire. S'ils viennent 12 nuitées, on en offre 2. Au niveau de nos stages, puisqu'on organise pas mal de stages, là, disons que c'est systématique de proposer aux gens de venir en train, d'autant qu'il n'est vraiment pas très utile d'avoir une voiture. Lorsqu'on vient à un stage, on vient de terminer un stage de Qigong, les gens sont relativement statiques. Au pire, ils dépassent Saint-Andéol-en-Cœur de 2 km. Donc l'objet voiture n'a vraiment pas beaucoup de sens. Donc là, c'est systématique. Ils viennent en train, ils viennent notamment de Paris et d'autres régions. Au niveau des touristes familiaux, on va dire, on a plusieurs choses. D'abord, on offre des vélos. On a aussi une promotion avec à bicyclette, une espèce de package logement plus repas plus location de deux vélos électriques. Et on loue en fait notre voiture aux gens qui viendraient en train à un prix tout à fait sympa puisqu'on demande 20 euros par jour, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà les moyens pour lesquels, avec lesquels on essaye de changer de tourisme et de faire venir des gens en train. Alors évidemment, les gens qui sont à la Lune en Bouche à Saint-André-Lanquin à 10 km de Die doivent s'approvisionner pour manger. Nous, on fournit le repas du soir, même s'il n'est pas obligatoire. Donc, on a créé pour cela une micro-épicerie chez nous. Alors, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont proposés. Ça va du sec jusqu'au frais, en passant par les fruits, etc., etc. Donc, en fait, les gens peuvent venir et s'ils veulent ne pas bouger, ils sont complètement autonomes. Et puis, chaque fois qu'on va à Die pour approvisionnement, le marché, la carline et d'autres sources d'approvisionnement, on emmène les autres avec nous s'ils veulent se déplacer.
Pour terminer sur cette thématique du transport, avez-vous eu des aides ? Est-ce une initiative personnelle déjà, enfin indépendante ? Et avez-vous eu des aides ou avez-vous été repéré, je ne sais pas, par le département, par exemple, qui met beaucoup de billes là-dessus ?
On n'a pas suscité de demande d'aide, on n'en a pas reçu. Non, c'est une initiative qu'on a prise il y a 3 ans. Toujours dans la réflexion, comment peut-on faire pour que le tourisme dans le Diois soit un tout petit peu plus écolo. Bon, voilà, c'est une idée qui est venue, qu'on est en train de développer. Bon, ceci dit, soyons tout à fait clairs, hein, ça ne suscite pas non plus ça fait pas 50% de notre clientèle, mais ça augmente d'année en année. Cette année, on a vraisemblablement... Outre les stages où ils viennent systématiquement ou presque en train, on a 6 familles qui viennent pendant une semaine en train, ce qui est pas mal, ça double le score de l'année passée. J'espère que l'année prochaine, on doublera encore.
Vous avez évoqué un petit peu le repas et l'approvisionnement de cette micro-épicerie. Alors on imagine, et vous avez cité quelques structures du coin, des produits locaux, plutôt biologiques. Là aussi, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ?
Alors l'objectif, c'est de faire vivre la région déjà. Donc produits locaux et si possible écologiques. On a un approvisionnement qui est biologique, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de producteurs qui n'ont pas le label bio. Je pense notamment à des producteurs de viande de la vallée de Quin. Les veaux montent en estive, redescendent en estive et puis sont transformés. Ils ne sont pas du tout dans un axe de labellisation biologique. Mais bon, c'est des produits qui sont tout à fait sains, bien sûr. Donc, on essaye de travailler avec ces producteurs-là. Donc, toute la viande vient du Diois. Tous les légumes et les fruits, sauf exception, parce que c'est un tout petit peu difficile de trouver des fruits dans le Diois, viennent du Diois ou dans la vallée du Rhône. Et tous les produits secs, en fait, viennent soit de ce groupement de consommateurs qui s'appelle la Carline, soit d'un achat direct à un grossiste via un groupement d'achat qu'on a créé dans la vallée de Quin.
Sur toutes ces choses-là, vous avez monté votre centrale d'achat, on va dire, vous-même, c'est-à-dire par contact ? Ou alors, il y a une possibilité d'être renseigné assez rapidement quelque part ?
Non, en fait, malheureusement, il y a personne qui a eu l'intelligence de centraliser et de faire une liste de tous les producteurs locaux. Donc c'est un peu par contact, par bouche à oreille, par rencontre amicale que le réseau se crée, quoi, clairement. Mais il y a, si on veut vraiment assurer une alimentation bio sur le Diois, c'est très facile en fait. Il y a beaucoup de producteurs, il suffit de se promener sur le marché. Il y a plein de producteurs bio sur le marché. Il y a la Carline, il y a éventuellement d'autres magasins bio. Et puis il y a des ventes directes, enfin, il y a plein de gens qui sont dans ce microcosme de l'alimentation biologique, c'est vraiment un plaisir. Souvent les hôtes qui viennent d'autres régions ou bien les gérants d'autres chambres d'hôtes qui viennent nous rendre visite disent: vous êtes complètement privilégiés dans le Diois, chez nous c'est galère pour trouver le dixième de produits que vous pouvez trouver ici, quoi.
Félicitons-nous alors.
Absolument.
Changeons un petit coup de thématique et pour parler un petit peu plus du bâtiment, vous avez évoqué tout à l'heure gestion de l'énergie, de l'eau et puis parler peut-être un petit peu de la structure en elle-même.
La structure en elle-même, c'est un vieux bâtiment d'une vieille ferme comme on pouvait en faire dans le Diois au XVIIe siècle. Donc c'est une grosse masse de pierre qu'on a tant bien que mal rénové, enfin tant bien que mal qu'on a rénové, je pense que c'est assez réussi. Donc en fait, il ne s'agit absolument pas d'un bâti neuf, et donc on a travaillé avec les contraintes de ce genre de bâtiment. Donc on n'est absolument pas ni BBC, ni basse consommation, c'est la même chose, ni passive,
HQE, tout
ni
ça.
HQE, etc. On a fait avec les moyens du bord, avec nos compétences d'il y a quelques années et de nos compétences ont évolué évidemment. Mais disons que le résultat n'est pas trop mal. Au niveau de l'énergie, le chauffage, l'eau chaude sanitaire sont d'abord issus de panneaux solaires, on a 21 mètres carrés, et puis d'une chaudière bois-bûche. Le bois vient du Diwa, bien évidemment, le soleil il vient du Diwa aussi, on en a pas mal en ce moment. On essaye évidemment de minimiser les consommations par c'est relativement commun maintenant, par des régulateurs de débit. Ouais. Etc, etc. Donc voilà, au niveau de l'eau, en fait, on a la chance d'avoir une source qui alimente un étang, qui elle-même alimente une pompe, qui elle-même alimente le potager, et bientôt, j'espère, peut-être dans un an ou deux, si j'ai le courage et le temps et le budget, qui alimentera les toilettes qui ne sont pas sèches chez nous. La raison, c'est très simple, c'est qu'en 2002, quand on a commencé, c'était relativement interdit. Dans les réseaux.
Là, vous évoquiez justement un deuxième réseau d'eau non potable, hein, pour évidemment pouvoir faire enfin caca dans de l'eau non potable. Hein.
Oui, c'est ça. L'idéal, c'est d'avoir des toilettes sèches, mais c'est vrai qu'à l'époque, on est affilié à un réseau qui s'appelle Gîtes de France. On avait un certain nombre de contraintes et celle-là en était une. Donc en 2002, les toilettes sèches n'étaient pas autorisées, clairement. Elles le sont maintenant parce que les mentalités, et c'est tant mieux, évoluent. Pour essayer d'éviter un gaspillage important d'eau, même si la vallée de Quin ne manque pas d'eau, on a créé deux réseaux de canalisation d'eau froide dans la maison. Le premier est alimenté, il s'agit des douches et des lavabos, par l'eau communale. Et le deuxième viendra, parce que je n'ai pas encore fait la totalité des travaux, le deuxième viendra de l'étang et donc de la source.
Plus concrètement sur le bâtiment, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous l'avez isolé, réhabilité, quels sont vos matériaux?
Alors on n'a pas fait d'études thermiques avant transformation et après. Mais bon, le bilan n'est pas trop mal puisqu'on consomme grosso modo d'eau par an, tout compris chambre d'eau, plus notre vie puisqu'on est à trois vivre dans la maison. On consomme environ 8 stères de bois, ce qui est relativement...
Pour une surface de combien?
Pour une surface de 300 mètres carrés, tout en sachant qu'une grosse partie de cette surface n'est utilisée que pendant la période d'accueil qui va d'avril à novembre. Donc voilà, mais bon, quand c'est la quantité d'eau chaude qu'utilisent les hôtes, surtout en cette saison où il fait très chaud, donc les douches y vont bon train, je crois que 8 stères de bois, c'est vraiment pas trop mal. Alors, comment on a isolé? On a isolé les toitures au maximum, avec plein de produits. Bon, à l'époque, en fait, en 2002, j'avais créé la société Quintessence qui distribuait des matériaux écolos. Donc, en fait, j'ai réutilisé tous les invendus se sont retrouvés dans mes toitures. Donc, j'ai du mouton, du chanvre, de la fibre de bois, de la cellulose et peut-être d'autres produits, j'ai oublié. Donc, les toitures sont isolées un maximum. Par contre, au niveau des murs, on a plutôt privilégié l'inertie. Donc, on a laissé les murs pour la plupart non isolés. Ce qui permet d'avoir pas mal d'inertie, ce qui permet d'avoir des chambres qui actuellement ne dépassent pas 22 degrés.
Mmh. Voilà. Fraîche en été.
Fraîche en été. Alors, il s'agit d'une solution intéressante pour de l'accueil estival, estival, printemps, été, automne. Par contre, il est clair que si ces bâtiments devaient être rénovés demain pour être utilisés en permanence, il faudrait bien entendu isoler les murs qui sont une source de déperdition relativement importante. L'idée, c'était d'éviter que les bâtiments soient trop froids l'hiver. Et surtout trop chaud l'été. Et le résultat est correct puisque je pense que là maintenant personne ne se plaint et tout le monde est content de la fraîcheur qu'il peut y avoir dans les chambres, à condition évidemment qu'il respecte certaines idées de base qui sont de ne pas ouvrir les fenêtres pendant la journée.
Comme nous, là, on est à l'ombre avec la fenêtre ouverte. D'ailleurs, voilà, on a des petits bruits de parking avec. Maintenant, je voudrais, puisqu'on a à peu près, grosso modo, décrit comment étaient les chambres d'hôtes. Et puis, on l'a compris un petit peu aussi, les gens sont poussés à rester sur place quand même le plus possible, hein, et puis à faire des déplacements doux, donc probablement de la randonnée, du vélo. Est-ce que vous mettez en place un programme écotouristique, d'activités écotouristiques autour de la Lune en Bouche?
Pas vraiment, on n'est pas vraiment un programme d'activités. On essaye de mettre en lien. Enfin, l'idée, en fait, c'est d'abord d'essayer de mettre en lien des gens qui viennent découvrir notre région avec des gens qui ont choisi de vivre ici. Donc, si les gens sont demandeurs, on leur propose bien évidemment, on leur fait visiter la chèvrerie de Vachère, on va visiter la transformation de vin en clairette bio de chez Achard, on leur propose d'aller visiter un certain nombre de producteurs, on les met aussi en lien avec des gens qui font des plantes aromatiques ou des huiles essentielles. Il y a deux structures dans la vallée de Quin, il y en a plus, mais on est en lien avec deux structures.
Expliquez-moi un petit peu ce lien justement là, c'est-à-dire c'est vous qui envoyez les gens visiter, c'est vous qui faites les visites ou alors est-ce que c'est le producteur qui reçoit ?
Ben, ça dépend en fait, parce que les producteurs ont une activité assez chargée pendant l'été, donc ils ne désirent pas pour la plupart avoir des visites sporadiques tous les jours à des moments où ils sont en train de travailler. Donc on essaye de prendre des contacts, donc soit les producteurs se déplacent pour expliquer ce qu'ils font, quelles sont leurs gammes, etc. Avec bien sûr un souhait de vente hein, au final. Ou alors on va ensemble, par exemple à 18h à la chèvrerie pour voir la traite et voir comment le lait de ces chèvres est transformé. Où on propose de faire une visite groupée chez Achard pour voir un peu comment il fonctionne, comment sa clairette est fabriquée. Et évidemment, ça se termine par une dégustation, ce qui n'est pas plus mal. Mais nous ne sommes pas agence de voyage, donc on n'a pas l'ambition en fait, de développer des activités clés sur main. Par contre, on donne toutes les possibilités aux gens d'aller vers ces liens qu'on propose. Voilà, ceci dit, les gens qui viennent chez nous peuvent très bien balader, faire du vélo, faire du VTT. On a un étang, elle doit faire 300 mètres carrés, donc un étang c'est un peu usurpé comme nom. Donc voilà, là on a des familles avec des enfants, entre la Sûre qui est le petit ruisseau qui coule à 200 mètres et notre étang, je pense qu'ils font pas grand chose d'autre en fait.
Oui, c'était un petit peu pour comprendre comment le public venait vers le gîte, les chambres d'hôtes, si c'était uniquement sur son cadre, sur le fait que c'était dans le Diwa ou s'il y avait aussi une démarche touristique. C'est important d'entendre que des fois c'est aussi juste pour rien faire, se mettre au vert.
Oui, tout à fait. Il y a aussi un aspect, c'est que quand on a commencé en 2002 et qu'on a voulu tout de suite communiquer vers notre offre bio-écologique, je pense que c'était un frein. Parce que beaucoup de gens imaginaient qu'un repas biologique, c'était du tofu et que ça allait être très mauvais et très chiant. Et que les écolos sont un peu militants et on allait boire de l'eau, uniquement de l'eau, par exemple. Eh bien, on remarque en fait qu'en 2012, ça s'est inversé et que ça devient plutôt un critère de recherche. Donc on est très heureux, notre saison bat son plein, on est complet à peu près tout le temps. Et je pense que maintenant, les gens qui voudraient aller vers cette démarche et communiquer clairement sur cette démarche, il y a un public qui vient pour ça, clairement. Nous, on affiche des repas à 15,75 € qui sont complètement bio, ce qui n'est quand même pas très très cher. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est d'avoir des repas relativement sains, enfin relativement simples, c'est élaboré, puisque j'y passe quand même près de 3 heures tous les jours. Avec des produits frais, avec des produits locaux, avec des produits bio. Et bon, voilà, et 15,75 €, ça ne tue pas le portefeuille, quoi, clairement. Alors, les gens qui ne veulent pas manger parce que, bon, on peut comprendre qu'une famille avec 3 enfants, 15,75 € x 5, ça commence à faire cher la journée. Eh bien, on a une cuisine, une salle et une cuisine à leur disposition. Ils peuvent fristouiller. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi ? C'est de proposer à des gens de venir en vacances dans le Diwa, en vacances douces, sans coup de grisou au portefeuille. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, les gens ont le choix. Soit ils se mettent plus ou moins les pieds sur la table, ils mangent nos repas. Soit ils ont accès à la cuisine, soit par des produits qu'ils ont achetés eux-mêmes, soit par la micro-épicerie. Donc, ça permet en fait tout un panel de possibilités. Et je suis assez content de la formule, puisqu'on peut imaginer que si on a un enfant, le prix de la chambre d'hôte et l'accès à la cuisine coûte moins cher qu'un gîte, alors qu'il y a des services complémentaires qui sont notamment le petit déjeuner, les draps qui sont fournis, le nettoyage qui est fourni, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc le message que j'ai envie de lancer, s'il y a des hébergeurs qui m'écoutent, c'est lancez-vous. Il y a vraiment un creuset important pour le tourisme écologique, le tourisme bio. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux dire, on ne peut pas se programmer écologique si on offre à ses hôtes de la... Enfin, ça commence pareil,
malbouffe.
Mais ça accentue de la malbouffe, oui, voilà. Ça me semble tout à fait évident. Il y a vraiment... Et j'engage aussi les collectivités, notamment l'Office du tourisme, mais on est en discussion avec Stéphanie Duprat, qui est la directrice, pour accentuer la communication sur ce genre de tourisme. On est dans la Biovallée et je pense que ça manque un tout petit peu de communication positive par rapport à l'offre touristique écologique dans le Diwa. On a créé un petit réseau qui s'appelle les hébergeurs de la Biovallée en mars de l'année passée, qui regroupe un certain nombre d'hébergeurs qui sont dans une démarche soit biologique, soit écologique, soit les deux. On ne peut pas demander au gîte d'être dans une démarche bio puisqu'il n'y a pas de repas. Donc voilà. On essaye de, outre le label, enfin je ne sais pas si ça va s'appeler un label Biovallée, on a essayé de proposer à des hébergeurs de se regrouper pour plusieurs raisons. D'abord, faire de la communication ensemble sur notre démarche écolo. Donc, on était présent au Salon Primevert à Lyon. On sera présent à la Foire de l'Albin dans l'Isère tout début septembre. Et on va continuer à démarcher. Enfin, on va continuer à faire un certain nombre de salons et de foires ensemble. Donc, l'idée, en fait, c'est que plutôt qu'aller à des foires, plutôt que de communiquer tout seul dans un coin, c'est bien plus amusant et bien plus sympathique, on va dire, de faire ça à plusieurs. Donc voilà, on sera aussi présent aux portes ouvertes de la Biovallée à Eure.
Le 27.
Le 27, merci de me le rappeler, j'ai oublié la date. Voilà, donc l'idée en fait, c'est que des gens qui sont dans cette démarche se regroupent pour s'entraider. On a les plannings de chacun, on a les disponibilités de chacun. En priorité, si j'ai une demande, donc je suis complet, je la transfère vers les membres de, ce petit réseau. Donc c'est un petit réseau informel qui démarre, qui n'est absolument pas normalisé ni formalisé, etc. Et bon voilà, s'il y a des hébergeurs qui se sentent dans cette veine et qui veulent travailler avec nous, qui veulent être présents dans des foires, bienvenue au club.
Et puis j'imagine que si vous arriviez à faire un réseau un peu plus structuré, là pour le coup ça intéresserait, vous avez cité tout à l'heure Stéphanie Duprat à l'Office du Tourisme, ce genre de personnes à pouvoir faire une communication un peu plus grande, et ouais. Biovallée également.
Mais en fait le réseau est né de la visite de Stéphanie dans nos locaux à la Lune en Bouche, où on discutait en fait de l'aspect bio-écolo, comment communiquer. Et à un moment, je lui ai dit, ce serait pas mal qu'on fasse un salon bio-écologique, enfin bio-écologique avec d'autres hébergeurs. Et puis elle m'a dit, écoute, parlons-en à d'autres hébergeurs et puis allons-y. Donc en fait, c'est Stéphanie qui est un peu, non pas à l'origine du réseau, mais qui a été d'une aide intéressante à la création de ce réseau. Elle nous suit, elle participe à nos réunions quand elle était dispo. Je pense que là, on peut lui dire merci parce qu'elle a fait quand même pas mal de boulot, notamment en communiquant vers tous les hébergeurs de la Biovallée, pas seulement du Diwa, mais de la Biovallée, pour dire, bon voilà, il y a un réseau qui démarre, qui veut y participer.
Et les élus sont au courant alors ?
Les élus sont au courant, d'autant plus que je fais partie du CA des offices de tourisme de Die et du Diwa. Donc je ne manquerai pas d'ailleurs de les pousser pour qu'on communique plus vers ce tourisme doux dans l'avenir dans le Diwa, c'est sûr.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Bonjour à tous et tout d'abord merci d'écouter Radio Diwa et Radio Saint-Ferréol. Aujourd'hui dans la capsule consacrée à l'écotourisme et plus spécifiquement à l'autonomie énergétique, nous avons sollicité par téléphone Éric Carté de l'Arche des Trois Becs à La Chaudière qui nous parle de ses différentes installations.
Moi et mon épouse qui avons été à l'initiative de ce projet, d'une part parce qu'on avait donc de grosses charges au niveau du chauffage. Il y avait beaucoup de déperditions dans la maison. Et donc, on a décidé de rénover l'installation en utilisant les énergies renouvelables. Et donc, on a aussi réalisé un label BBC, bâtiment basse consommation, sur notre habitation principale. Au niveau des installations, on a refait entièrement le système de chauffage, c'est-à-dire qu'à la place de la chaudière fuel, on a mis une chaudière à granulés avec un silo à granulés de bois, associé avec des capteurs solaires, des capteurs thermiques qui chauffent l'eau, hein, c'est pas du photovoltaïque, c'est des capteurs thermiques. Donc voilà, nous avons rénové notre habitation principale en bâtiment basse consommation. C'est-à-dire qu'on a fait passer un ingénieur thermique qui a fait une étude thermique du bâti, qui nous a indiqué quelle épaisseur pour l'isolation, quelle épaisseur d'isolation mettre, enfin bon, il y avait un cahier des charges très précis qu'il a fallu suivre. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils acceptent de l'autoconstruction. C'est-à-dire que j'ai pu faire l'intérieur du bâti moi-même, qui a limité les coûts, parce que c'est vrai que si on le fait faire par des entreprises, ça aurait coûté nettement plus cher, je pense. Donc nous avons isolé la maison de façon très performante, avec de la ouate de cellulose en périphérie et de la fibre de bois au plafond. Nous avons mis une ventilation double flux et avec associé à un puits canadien. Alors un puits canadien, c'est tout simplement un tuyau assez important, de diamètre 200 ou 300, enterré dans la terre, à une profondeur d'environ 1,50 m. Et l'air qui pénètre dans la maison donc passe d'abord par ce tuyau. Donc l'été est rafraîchi par la terre et l'hiver est réchauffé par la terre. La terre est toujours à une température qui avoisine les 15 degrés à peu près. Ce qui permet de tempérer la maison l'été et puis de la préchauffer, enfin entre guillemets, via la ventilation double flux l'hiver, quoi. Nous avons aussi installé une éolienne qui a une puissance nominale de 10 kWh qui permet de subvenir environ à 35% de nos besoins. On consomme ce qu'elle produit instantanément. On ne stocke pas parce que ça coûtait un petit peu cher, mais on consomme ce qu'elle produit instantanément. Et c'est vrai que on est dans une région qui a toujours du vent, quand même intéressant, vu l'augmentation du kilowatt qui se présage dans les prochaines années. On a rencontré quelques petites difficultés au début au niveau de... Pour l'installation de l'éolienne, certaines personnes n'étaient pas très pour, parce que, soi-disant que c'était une pollution visuelle. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est installée, tout le monde trouve ça beau. En effet, elle n'est pas sur l'horizon, elle est intégrée dans une colline. Et maintenant, plus personne ne la dénigre. C'est vrai que ça a été un gros investissement du départ, hein, parce que l'éolienne, plus la chaudière à granulés, plus les capteurs solaires... Ça avoisine les 100 000 euros quand même. Enfin, au niveau des capteurs solaires, l'amortissement est très rapide quand même. Parce que je vois même l'hiver, quand il fait très froid, ça fonctionne bien. Je pense que les capteurs solaires, ils sont, avec la chaudière à granulés, seront amortis en 8 ans. Les travaux, ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont réalisés. Aujourd'hui, je suis vraiment très content. Je suis même fier d'avoir réalisé tout ça. Parce que, bon, c'était pas gagné du départ. Et malgré... alors, c'est vrai que nous avons aidé... par l'ADIL déjà, qui nous a aidé à monter des dossiers, puis par le conseiller général du canton. Mais on est vraiment très satisfait d'avoir fait ça, surtout qu'aujourd'hui on a un confort de vie. La rénovation en BBC procure un confort vraiment exceptionnel. Nous habitons à La Chaudière, entre Saillant et Bourdeaux. Nous sommes un gîte et chambre d'hôte qui s'appelle l'Arche des Trois Becs. Voilà, on fonctionne depuis 3 ans. On a une piscine intérieure chauffée toute l'année. C'est d'ailleurs la seule piscine intérieure chauffée de la vallée. Notre numéro de téléphone est le 04 75 21 59 32.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Puisque vous avez lancé nos élus et puis vos confrères hébergeurs, est-ce que vous pouvez en 2 mots rappeler aussi pourquoi vous pouvez afficher ce type de prix et vous en sortir en plus ?
En fait, on affiche ce type de prix. Je dois vous avouer que sur les repas de 15,75 €, on ne gagne pas énormément d'argent. Mais l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il est tout à fait possible de manger bio, de proposer une table d'hôte bio, sans avoir un prix qui est exorbitant.
Alors comment vous en sortez alors
Je cultive 300 mètres carrés de potager, je m'approvisionne via notre centrale d'achat chez des grossistes qui permet d'avoir des remises quand même relativement importantes. On essaie de trouver, on va directement chez les producteurs, on discute le coût avec eux. On fidélise aussi les liens entre les producteurs et nous. Bon, par exemple, le poulet est acheté chez Caroline Dumas. On a discuté avec elle. Elle nous a offert une promotion, mais des prix intéressants. Donc, plutôt qu'acheter un poulet à 6,50 € chez Intermarché, qui est un poulet qui aime, on peut imaginer les conditions d'élevage, on achète un poulet chez une dame qui habite le Diwa, qui fait du poulet bio. C'est des poulets de chair qui sont intéressants. Et on le sort à un prix qui doit être, si je me rappelle bien, 8,25 €, ce qui est pas du tout cher, et ce qui est moins cher que le poulet bio d'Intermarché. Donc tout ça l'un dans l'autre, en travaillant, en imaginant des plats qui ne coûtent pas très très cher, et puis en travaillant aussi dans la simplicité. Enfin, moi, je ne m'amuse pas à faire des verrines avec un certain nombre de couleurs, etc. J'ai des retours qui sont tout à fait positifs, mais ce sont des repas qui sont relativement simples, ce qui permet de ne pas y passer toute la journée. Et ce qui permet de sortir des prix qui sont, je pense, parmi les moins chers au niveau des tables d'eau de Diwa, clairement.
Jean-Claude Mengoni, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu où trouve-t-on la Lune en Bouche, si vous avez un site internet, si vous avez des coordonnées, tout ça.
Alors la Lune en Bouche se trouve au hameau de Ribière à Saint-André-Lanquin. Donc c'est situé au niveau de Saint-Cran, on prend à droite, on part vers la vallée de Quin, on y arrive après 5 km. Le site internet, c'est en attendant que www.lalunenbouche.com soit effectif. On a un site qui est un site communautaire, qui est un site de la vallée de Quin, qui s'appelle valleedequin.com. Et dans lavalleedequin.com, on a un onglet hébergement où on peut détailler, on détaille exactement notre offre.
Mais je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
À bientôt.